Alors, il doit bien y avoir chez vous, quelque part, un vase, par exemple, posé sur une étagère, ou une photo accrochée à un mur, ou un livre mis en évidence sur une table basse. Bref, un objet, quel qu'il soit, auquel vous attachiez beaucoup de valeur le jour où vous l'avez acquis, cet objet. D'ailleurs, c'est pour ça que cet objet occupe une place privilégiée encore aujourd'hui dans votre maison ou dans votre appartement. Il y a des choses comme ça chez vous, non? Mais curieusement, cet objet, vous ne le remarquez presque plus maintenant. Vous passez devant et vous n'y faites presque plus attention. Comment se fait-il que cet objet, si précieux à vos yeux au départ, soit devenu avec le temps finalement un objet relativement ordinaire? Comment est-ce possible? Eh bien, vous savez, on observe un peu la même chose dans la relation des hommes avec Dieu, hein, quelque part. Comme nous l'apprend la Bible, l'histoire des hommes est ponctuée d'interventions de Dieu, plus ou moins spectaculaires, mais des interventions où Dieu communique des bienfaits aux hommes. Et quand Dieu communique des bienfaits aux hommes, il y a des hommes qui sont complètement indifférents, mais il y en a d'autres qui reçoivent ces bienfaits avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'enthousiasme. Mais au bout d'un certain temps, même ceux qui ont été sensibles aux bienfaits de Dieu glissent parfois à leur tour dans l'indifférence. Ou du moins dans une sorte de détachement, un peu comme pour ces objets dont je parlais, hein, qui autrefois retenaient toute notre attention, mais maintenant que nous ne remarquons pratiquement plus. Et le texte qu'on va lire et étudier cet après-midi concerne le plus grand bienfait que Dieu ait jamais communiqué aux hommes. Un bienfait époustouflant, mais auquel nous nous sommes peut-être habitués. Ou peut-être encore, parce que je ne vous connais pas tous, je ne sais pas quelle est votre relation à Dieu, ni quel a été votre parcours dans la foi, peut-être que vous n'y avez tout simplement jamais été sensible à ce bienfait de Dieu. Ce bienfait époustouflant, le plus grand bienfait que Dieu ait jamais communiqué aux hommes, c'est pas le beau temps, c'est pas la santé, c'est pas les congés payés, mais ce bienfait époustouflant, c'est la possibilité que nous avons de nous approcher de Dieu librement et d'être reçus par lui favorablement. La possibilité que nous avons de nous approcher de Dieu librement et d'être reçus, accueillis par lui favorablement. Et à l'époque où ce psaume a été écrit, et qu'on va lire dans quelques instants, ce bienfait incroyable était représenté aux hommes sous la forme d'un temple. Un temple, c'est-à-dire un édifice de culte monumental, absolument unique en son temps, situé sur une grande colline appelée Sion à l'époque, où était construite d'ailleurs la ville de Jérusalem. D'accord? Et ce temple, c'était littéralement, je dis bien littéralement, ce temple, c'était la matérialisation de cette possibilité que Dieu offrait aux hommes de s'approcher de lui, d'être reçu par lui, d'être en relation avec lui, tout simplement. Et l'auteur de ce psaume qu'on va lire a envie d'inciter son auditoire à vraiment apprécier le temple à sa juste valeur. C'est ça son but. Il veut vraiment inciter les gens qui vont lire et chanter ce psaume ou l'écouter, il veut les inciter à vraiment apprécier ce temple à sa juste valeur. Mince, ce temple, c'est pas juste un joli bâtiment, c'est pas juste un monument, c'est pas juste un truc dont on prend des photos ou qui apparaît sur des cartes postales. En le considérant, cet édifice de culte, ce temple, tous les hommes doivent se dire: quelle chance nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Quelle chance nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Voilà l'effet qu'est censé en fait produire ce texte, psaume 132, même sur nous encore aujourd'hui. Et comme on le verra tout à l'heure, ce qui matérialise cette possibilité, hein, que Dieu offre aux hommes de s'approcher de lui librement et d'être reçu par lui favorablement, ce qui matérialise cette possibilité aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment. Mais c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Bref, on va lire le texte avant d'aller plus loin. Et vous allez voir que pour nous faire vraiment apprécier ce bienfait que Dieu a communiqué aux hommes, eh ben, le psalmiste, l'auteur du psaume, donc, va évoquer deux promesses, si vous voulez, des promesses solennelles, hein, des serments. D'une part, le serment de David, du roi David, à l'Éternel, un serment qu'il a fait à l'Éternel, où David s'engage à construire la maison de Dieu, et d'autre part, le serment de l'Éternel à David, où cette fois c'est Dieu qui s'engage à bénir la maison de David. Vous allez voir, c'est très intéressant. On lit le texte. psaume 132, un cantique des montées. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment à l'Éternel, ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, et je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et ton arche imposante. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas ton Messie. L'Éternel a fait serment à David. En vérité, il n'y reviendra pas. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, siégeront sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je comblerai de bénédictions ses ressources. Je rassasirai de pain ses pauvres. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera son diadème. Je vous invite à la prière avant de continuer. Merci pour ta parole, Seigneur, car tu as daigné te faire connaître à nous par ce moyen-là, et tu veux aussi nous édifier par ce moyen-là, sous l'effet, par la puissance en tout cas de ton Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ton œuvre en nous maintenant, rends-nous à l'écoute de ta voix et bénis la prédication de ta parole maintenant. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Quelle chance! Nous pouvons avoir une relation avec Dieu. C'est incroyable, non? Ça, c'est l'effet que le psalmiste veut produire en nous. Et le premier point, voilà, dans la première partie de ce psaume, qui finalement se divise assez bien en deux parties relativement égales en longueur, les versets 1 à 9. Et là, ce qu'on va voir, c'est que la possibilité d'avoir une relation avec Dieu devrait nous enthousiasmer en raison, premièrement, de la détermination de celui qui a rendu cette relation possible. D'accord ? La possibilité d'avoir une relation avec Dieu devrait nous enthousiasmer, premièrement, en raison de la détermination de celui qui a rendu cette relation possible. Et dans la première partie du psaume, l'auteur nous parle donc de ce serment que David a fait à Dieu, où David s'est engagé à construire la maison de Dieu. Versets 1 à 5 concernent ce désir ardent de David. Et ce désir était tellement puissant chez David qu'il s'est engagé à ne pas dormir chez lui quelque part, à ne pas se reposer chez lui tant que Dieu lui n'aurait pas un lieu de repos. C'est ce qu'il dit, hein. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. C'était le désir ardent de David. Et puis ensuite, un désir si fort d'ailleurs que cela est comparé à des peines, à une souffrance au premier verset. Souviens-toi des peines de David, de ses afflictions dans certaines traductions. Un désir douloureux quelque part. Puis verset 6, le psalmiste évoque ici, alors c'est un verset un peu mystérieux, mais apparemment il évoque l'enthousiasme croissant qu'il y a eu dans le pays lorsque la nouvelle de l'achèvement des travaux a commencé à se répandre. Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata. Nous l'avons trouvé dans la campagne de Yahar, c'est-à-dire le lieu de repos pour Dieu, c'est-à-dire l'emplacement du temple. Et ensuite, verset 7, on a une sorte d'explosion de joie. Puisque le temple a été construit, puisque le temple est l'aboutissement d'une longue attente, puisqu'il est même le fruit quelque part des peines, des afflictions du roi David. Alors quoi de plus logique, verset 7, que nous y allions, allons à sa demeure. Et quoi de plus logique que Dieu aussi y vienne, verset 8, « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. » Quoi de plus logique? C'est l'aboutissement de cette longue attente de tous ces efforts. Alors il faut savoir que ce n'est pas le roi David qui a construit le temple. David en a eu le désir, un désir intense, si bien qu'il a consacré toute la fin de sa vie à organiser tout ce qu'il fallait organiser pour que la construction, les travaux soient possibles. C'est lui qui a récolté l'argent, les richesses nécessaires à la construction. C'est lui qui a rassemblé tous les matériaux qu'il faudrait. C'est lui qui a dressé les plans. C'est lui qui a recruté les ouvriers. C'est lui qui a organisé et nommé les équipes ensuite de sacrificateurs et de musiciens qui allaient ensuite faire leur service dans le temple. C'est lui qui a fait tout ça. En gros, il a fait le plus gros du travail quelque part. Il manquait plus qu'à mettre les briques les unes sur les autres et le mortier, et puis c'était bon. Tout le reste était prêt. Mais ce n'est pas David qui a vu l'achèvement, en tout cas, des travaux du temple. C'est son fils Salomon. Et donc, on peut en conclure que ce psaume a été écrit après cette période-là. Ce n'est pas un psaume qui a été écrit du vivant de David. Mais donc, pour le psalmiste ici, David a tellement désiré voir ce temple que ce serait comme un affront à sa mémoire si les Israélites, maintenant que le temple est construit, eh bien, le négligeaient. David, qui en perdait le sommeil parce que le temple n'existait pas, et maintenant qu'il existe, nous on n'irait pas. Vous voyez ? Allons-y à la demeure de l'Éternel. Allons-y. Et toi, Seigneur, viens. Souviens-toi, toi aussi, des peines de David. Et viens à ton lieu de repos. Viens à notre rencontre. C'est intéressant, hein, d'ailleurs, que le psalmiste utilise même les afflictions et la détermination de David, non seulement comme un argument pour pousser les Israélites à être enthousiaste au sujet du temple, mais aussi quelque part pour inciter Dieu, si j'ose dire, à être enthousiaste au sujet du temple. Seigneur, Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Et ensuite, verset 8, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Il ajoute, verset 10, ça ne fait pas partie de la première partie, mais ça vient juste après, à cause de David, ton serviteur. Et donc, vous voyez pourquoi je disais que ces 9 premiers versets sont censés produire aussi cet effet sur nous. La possibilité d'avoir une relation avec Dieu doit nous enthousiasmer en raison de la détermination de celui qui a rendu cette relation possible. Et je vais y revenir. Mais imaginez une famille qui emménagerait. Imaginez une famille, ça va vous intéresser, hein, donc écoutez bien. Imaginez une famille qui emménagerait dans une maison qui a été longtemps abandonnée. Et dans le jardin, il y a une vieille piscine complètement inutilisable. Alors, de peur que vous reconnaissiez la famille en question, j'ai changé leur nom. On va les appeler Yves, Ginette et leur fille Safira. Et donc, c'est pour pas les gêner, hein, que j'utilise des pseudos. Alors, la famille se dit que ce serait bien si la piscine était remise en état. Alors, le papa prend à cœur ce souhait, évidemment. Et pendant des mois, enfin justement, c'est pas évident. Et pendant des mois, il va travailler comme un forçat à retaper la piscine pour qu'elle puisse être utilisée. Alors il va y consacrer ses soirées, et ses week-ends, et ses RTT, et ses vacances, et ses nuits parfois. Et puis un beau matin, papa, Yves donc, se présente en sueur, exténué, épuisé devant sa femme et sa fille, Safira. Et il leur dit, ça y est, la piscine est finie. Explosion de joie dans la maison, n'est-ce pas? On enfile les maillots de bain à toute vitesse, on se jette à l'eau. Et on en profite, on se baigne pour le reste de l'été. Un an plus tard, la piscine est devenue quelque chose d'un peu ordinaire. Puis un jour, Safira, elle vient voir Yves, son papa, et elle lui dit « Papa, je m'ennuie. Quand est-ce que tu vas retaper le court de tennis ?» Mais à ce moment-là, heureusement que Ginette est là, elle va intervenir et elle va dire quelque chose du genre « Voyons, souviens-toi des peines de papa. Comment il a consacré ses soirées, ses week-ends, ses vacances à retaper la piscine. On était si impatients qu'il finisse, n'est-ce pas? Soyons reconnaissants et allons nous baigner encore aujourd'hui. » Et de la même façon, ce psaume a pu être utilisé tout au long de l'histoire d'Israël pour ranimer chez les Israélites l'enthousiasme qu'ils étaient censés avoir pour le temple. Mais le temple était peut-être devenu avec le temps quelque chose d'un peu ordinaire. On avait peut-être pris l'habitude de le voir, ce temple construit sur la montagne de Sion. Alors qu'il était littéralement, ce temple, comme je le disais, la matérialisation d'un bienfait extraordinaire, à savoir la possibilité que les hommes avaient de s'approcher de Dieu librement et d'être reçus par lui favorablement. Et ça, c'était pas rien. Est-ce que cette possibilité de vous approcher de Dieu librement, d'être reçu par lui favorablement, est-ce que cette possibilité-là vous enthousiasme aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait battre votre cœur un peu plus vite dans votre poitrine? Alors bien sûr, ça fait 1943 ans maintenant, 1943 ans que le temple a été détruit et qu'il n'a pas été reconstruit à ce jour. Il n'existe plus et pour cause, il s'est passé quelque chose à l'époque de Jésus qui a rendu le temple complètement obsolète. Il ne sert plus à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus? Jésus a réalisé en sa propre personne tout ce qui était jusqu'alors réalisé au temple, mais de façon imparfaite au temple. Jésus l'a réalisé parfaitement en sa propre personne. Il a réalisé parfaitement en sa propre personne tout ce qui était réalisé jusqu'alors au temple, mais de manière imparfaite. Jésus a été un prêtre parfait. Contrairement à tous les autres prêtres qui ont officié au temple, Jésus, lui, était sans péché. Il n'y a personne d'autre comme lui. Prêtre parfait. Il a même offert un sacrifice parfait, parce que tous les autres sacrifices qui ont été offerts étaient des animaux, et il a fallu les offrir de nouveau, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, parce qu'aucun sacrifice ne suffisait pour expier les péchés du peuple. Mais Jésus, lui, il a offert un sacrifice d'une qualité parfaite, qui n'a pas besoin d'être renouvelé. Et c'était quoi ce sacrifice? C'était le sacrifice de sa propre personne, de lui-même. Être parfait, offert en sacrifice, parfait, pour expier nos péchés. Et puis, le Nouveau Testament nous apprend que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, qu'il a été exalté, et maintenant, il est auprès de Dieu le Père, et là, il intercède encore pour nous. Il continue d'agir comme un médiateur, comme un sacrificateur, comme un prêtre. Et son sacrifice, son sang, quelque part, qui a été versé à la croix, continue de plaider en faveur de tous les croyants. Et cela à perpétuité. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a réalisé parfaitement tout ce qui était jusqu'alors réalisé au temple, mais de manière imparfaite. Et c'est pour cette raison que le temple est devenu complètement obsolète. C'est Jésus donc qui aujourd'hui matérialise la possibilité pour les hommes d'avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui matérialise cette possibilité, c'est Jésus qui le matérialise, qui la matérialise. Mais est-ce que nous aujourd'hui, nous pensons souvent à la détermination de Jésus et à ses afflictions? Qui ont rendu possible le plus grand bienfait de tous les temps. Jésus, le Fils éternel de Dieu. Il était avec Dieu depuis l'éternité, deuxième personne de la Trinité, avec le Père et le Saint-Esprit. Il est entré dans le monde, il a pris un corps humain, une chair humaine. Il est venu dans le monde, Jésus, avec une mission à accomplir, une mission qu'il s'était engagé depuis toute l'éternité à accomplir. Cette mission consistait à construire la maison de Dieu. Quelque part, David en a rêvé et Jésus l'a fait. Faire en sorte que les hommes puissent s'approcher de Dieu librement et être reçus par lui favorablement. Jésus était déterminé en venant dans le monde, il était déterminé à faire la volonté de son Père. Et c'est pour cela qu'il s'est dépouillé lui-même, comme nous le dit le Nouveau Testament. Qu'il a pris la condition d'un esclave, qu'il a été obéissant et fidèle jusqu'à la mort de la croix. Et à chaque fois que les hommes s'approchent de Dieu par Jésus, Dieu les reçoit favorablement, parce que Dieu, lui, il se souvient des peines de son Fils. Il se souvient des afflictions de son Fils. Mais vous et moi, est-ce que nous nous en souvenons? Est-ce que nous sommes enthousiasmés, comme le psalmiste, à l'idée d'avoir une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que ces versets 7 à 9 caractérisent un peu notre piété? Franchement, ça caractérise pas trop la mienne. Je le reconnais. Est-ce que le dimanche, quand c'est l'heure du culte, je m'exclame dans la maison, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Est-ce que j'arrive au culte et que, est-ce que je prie Dieu en disant « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et ton arche imposante. » Est-ce que ça caractérise ma piété? Non, malheureusement. Pourquoi? Parce que je ne pense pas assez aux afflictions de Jésus qui ont rendu cette relation possible. Donc la possibilité d'avoir une relation avec Dieu doit nous enthousiasmer, premièrement en raison de la détermination de celui qui a rendu cette relation possible. Mais deuxième point, et c'est la deuxième partie de ce psaume, les versets 10 à 18. La possibilité d'avoir une relation avec Dieu doit nous enthousiasmer, deuxièmement, en raison de la nature parfaitement suffisante de cette relation. En raison de la nature parfaitement satisfaisante de cette relation. En raison de la nature parfaitement satisfaisante de cette relation. On a dit que dans un premier temps, le psalmiste nous parlait du serment que David a fait à Dieu, où David s'engage à construire la maison de Dieu. Et cette fois, il va nous parler, à partir de verset 10, du serment de Dieu à David, où cette fois c'est Dieu qui s'engage à bénir la maison de David. D'abord, l'auteur rappelle, versets 11 et 12, qu'il rappelle la promesse que Dieu a faite concernant la descendance de David et comme quoi il y aurait toujours un descendant de David assis sur son trône. Autrement dit, la maison de David, la famille, la dynastie de David ne sera jamais détruite. C'est ça la promesse. Et Dieu s'y est engagé par un serment. Pas rien quand Dieu prête serment. Hein. Et ensuite, l'auteur va énumérer, à partir du verset 13, toutes sortes de bénédictions qui sont liées à la faveur particulière que Dieu fait reposer sur David et sur le temple. Le temple que David a tant désiré. On découvre dans ces versets 13 jusqu'à 18, jusqu'à la fin, que Dieu sera présent au milieu du peuple. C'est sa promesse. Qu'il fera prospérer le pays, qu'il consolera les indigents, les affligés. Il approuvera le service des prêtres. Il réjouira les croyants, il consolidera le règne du roi, il châtiera les ennemis de Dieu. Incroyable, toutes ces promesses qui sont énumérées ici. Certaines de ces promesses sont un peu difficiles à traduire en français, en raison d'un langage un peu obscur. Il est possible que dans votre traduction, quand j'ai lu le texte, vous ayez vu des trucs complètement différents, enfin complètement différents, des termes en tout cas qui n'étaient pas les mêmes que ceux que j'ai dans la mienne de traduction. Mais la teneur principale du passage est assez claire. Et c'est la suivante, c'est que la possibilité que Dieu offre aux hommes de s'approcher de lui librement et d'être reçu par lui favorablement est un bienfait absolument hors du commun, absolument inégalable, absolument incroyable. Les mots-clés, si vous voulez, on pourrait récapituler tout ce qui est dit ici par quelques mots-clés. Les mots-clés de ces quelques versets sont les suivants, à mon avis. Perpétuité, stabilité, sécurité, salut, repos, prospérité, joie, puissance, justice, consolation, fécondité, lumière, etc., etc. La possibilité d'avoir une relation avec Dieu doit nous enthousiasmer en raison de la nature parfaitement satisfaisante de cette relation. Quelle incroyable relation que celle qu'on peut avoir avec Dieu. Non. Levez la main si vous n'avez aucune envie que votre existence soit caractérisée par ces mots-clés. Stabilité, sécurité, salut, repos, prospérité, joie, non. Puissance, justice, consolation, fécondité, lumière. Non, je préfère les ténèbres. Si quelqu'un vous présentait ces choses sur un plateau, est-ce que vous les prendriez? Franchement. Vous savez, très souvent, on reçoit des appels téléphoniques chez nous de la part de commerciaux qui veulent nous convaincre de nous équiper en panneaux photovoltaïques. Et très vite, quand ils voient qu'on n'est pas intéressé, ils nous font comprendre qu'en fait, avec eux, avec leur entreprise, ça va absolument rien nous coûter. Et qu'en fait, on va même s'enrichir puisqu'on va finir par vendre de l'électricité à EDF. C'est génial, ça ne nous coûte rien, on s'enrichit pour rien. Enfin, c'est génial, c'est trop beau pour être vrai, non? Ben justement, c'est trop beau pour être vrai. En tout cas, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas si c'est vrai, mais jusqu'à présent, ça n'a pas pris pour nous. On n'a pas de panneau photovoltaïque sur notre toit. La voix d'un commercial inconnu à l'autre bout du fil, surtout quand ça fait la cinquième fois dans la même semaine, c'est peut-être pas assez pour nous convaincre. Mais la voix de l'Écriture sainte, ce serait assez pour vous convaincre? la voix des prophètes, des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce serait assez pour vous convaincre. Ce serait assez pour vous convaincre que la satisfaction profonde que vous recherchez depuis que vous êtes né se trouve dans une relation avec Dieu, possible grâce à Jésus. Imaginez encore que vous soyez à la recherche d'un whisky très rare. Remplacez whisky très rare par un objet quelconque que vous pourriez désirer très fort. Et donc vous cherchez cet objet très, très rare, très précieux, que vous désirez beaucoup, et qui est introuvable dans les magasins que vous fréquentez habituellement, quoi, introuvable à Carrefour, à Auchan, enfin, voilà. Vous faites des recherches sur Internet et vous découvrez qu'il y a une bouteille de ce whisky très rare ou de cet objet en vente dans un magasin très spécialisé, et un seul magasin dans tout le pays, un magasin très spécialisé, dans le Vieux-Lyon, situé dans le Vieux-Lyon. Et en plus, c'est incroyable, mais cette bouteille, ou cet objet, est vendu moins cher que ce que vous espériez. Mais bon, comme vous êtes un sceptique de nature, vous vous dites, non, il y a une arnaque quelque part, c'est pas possible, ça fait tellement longtemps que je cherche ça, c'est sûrement pas vrai, c'est sûrement une erreur. Et donc vous y allez pas, pourtant c'est pas loin. Sauf que quelques semaines plus tard, quand vous regardez de nouveau, il n'y a plus cette bouteille. Tant pis pour vous. Et mes amis, les promesses que Dieu a faites à David vous paraissent peut-être un peu trop incroyables. Trop belles pour être vraies. Hein. Pourtant, nous avons la preuve incontestable qu'elles sont vraies. Parce qu'un descendant de David s'est bel et bien assis sur le trône du royaume de Dieu pour toujours. Il s'agit du Seigneur Jésus, hein, de la descendance de David. Et si David avait la faveur de Dieu, combien plus ce descendant, puisqu'il s'agit du Fils éternel de Dieu, Dieu en personne, fait homme, qui a gagné la victoire ultime sur tous les ennemis de Dieu. Vous savez, David, il en a gagné des victoires. Mais Jésus, lui, il a tout gagné sur tous les ennemis de Dieu et de son peuple. Il a gagné par sa mort et sa résurrection. Il a été exalté et il s'est assis bel et bien sur le trône de David, au ciel, à la droite de Dieu. Et il siège sur toute la création. Nous avons la preuve, l'attestation formelle, solennelle, irréfutable, que les promesses de Dieu faites à David sont toutes vraies en raison de ce que Jésus a fait. Il a offert le sacrifice parfait, il a gagné parfaitement le pardon parfait de Dieu en faveur de tous les croyants. Il est le nouveau temple de David ou de Salomon si vous voulez. Il est le lieu de rencontre, de réconciliation et de relation avec Dieu pour toujours. Il ne va jamais être détruit. Il existe. Il est là et la porte est ouverte. Ce n'est pas un temple fait par la main des hommes que Dieu habite. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, dit-il, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de tout pouvoir. Non mais, vous pensez que j'exagère? C'est Paul qui exagère. Enfin, c'est Dieu qui exagère, si vous pensez que j'exagère. En Christ, vous avez tout pleinement. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est le chef de tout pouvoir. Quelle chance! On peut avoir une relation avec Dieu. Et c'est Jésus qui aujourd'hui matérialise cette possibilité qui est offerte aux hommes. Ce n'est pas un bâtiment. Et de la même façon que Jésus s'était engagé auprès du Père à réaliser sa volonté en s'offrant lui-même en sacrifice sur la croix et en se substituant aux croyants pour prendre sur lui leurs péchés, d'accord ? Ça, c'était l'engagement de Jésus vis-à-vis de Dieu, le serment de Jésus à Dieu, à l'image du serment de David à l'Éternel. Eh bien, le Père aussi, Dieu aussi s'est engagé auprès du Fils. Il lui a fait une promesse, il lui a fait un serment, si vous voulez. Et cette promesse consistait à exalter le Fils et à le faire régner jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Dieu s'est engagé, voyez-vous, à déployer son règne de justice et de paix par la puissance de l'Esprit, notamment au travers de la prédication de sa parole. mes amis, nous pouvons faire partie du royaume de Dieu. Nous en faisons partie si nous avons prêté allégeance à Jésus. Mais est-ce que cette réalité est devenue ordinaire? Est-ce que notre amour a tiédi? Est-ce que nous avons fini par nous enthousiasmer pour des choses beaucoup moins importantes? Des choses passagères? Des choses égoïstes peut-être? Et si vous n'avez jamais prêté allégeance à Jésus dans votre cœur, alors qu'est-ce que vous attendez pour le faire, franchement? Pourquoi continuer à chercher ailleurs alors que vous savez, au moins depuis aujourd'hui, où se trouve ce que vous cherchez? Pourquoi continuer à chercher ailleurs? Vous savez où ça se trouve ce que vous cherchez? C'est auprès du Seigneur Jésus. La possibilité donc d'avoir une relation avec Dieu doit nous enthousiasmer en raison de la nature parfaitement satisfaisante de cette relation. C'était mon deuxième point. Alors pour conclure, vous vous souvenez de ces objets dont je parlais en introduction? Ces objets qui autrefois retenaient toute votre attention, que vous avez mis en évidence dans votre maison, mais que vous ne remarquez presque plus aujourd'hui. Vous savez, le tableau dans la salle de bain? Vous savez, le cendrier sur le piano? Vous voyez de quoi je veux parler, hein? Ou encore ce poème d'amour que votre fiancé vous a offert, et que vous avez encadré et affiché sur le mur dans votre bureau. Comme les paroles de ce poème faisaient battre votre cœur le jour où vous l'avez reçu quand même. Mais maintenant, quelques années plus tard, est-ce que c'est le poème qui est devenu moins bon avec le temps? Ou bien est-ce que c'est votre appréciation à vous qui a baissé? Parfois, heureusement, votre regard va tomber dessus, comme ça, en passant. Et parfois, vous allez vous arrêter au milieu de ce que vous étiez en train de faire. Vous allez vous arrêter, marquer une pause. Vous allez relire lentement ce poème. Et vous allez en savourer chaque mot, jusqu'à ce que soit réveillé en vous tout ce que ce cadeau représentait autrefois. Ça arrive parfois, heureusement. J'espère qu'il en sera de même pour notre relation avec Dieu. Qu'on va s'arrêter au milieu d'une journée hyper occupée, hyper stressante, qu'on va marquer une pause, qu'on va lire un petit peu de la lettre d'amour que Dieu nous a adressée, ou peut-être simplement méditer sur ce que Dieu a fait pour nous par Jésus, et nous souvenir et ranimer en nous tout ce que nous avons ressenti le premier jour. Quelle chance nous pouvons avoir une relation avec Dieu à cause de Jésus-Christ qui a réalisé tout ce qui était annoncé par le Temple. Eh bien, nous pouvons nous approcher de Dieu librement et être reçus par lui favorablement. Amen. Prions. Merci, notre Dieu, pour ta faveur qui s'exprime pleinement dans la vie et l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir ouvert la porte pour que nous puissions nous approcher de toi. Ô Seigneur, ranime en nous l'enthousiasme pour ce bienfait époustouflant, le plus grand bienfait que tu aies jamais communiqué aux hommes et qui consiste à être en relation avec toi. S'il te plaît, fais-le par la puissance de ton esprit dans notre vie à chacun. Amen.